Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast « Les pouvoirs de votre assiette » conçu en partenariat avec les laboratoires NHCO Nutrition. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation et de la minceur. Comment votre alimentation peut-elle être un levier de perte de poids ? Je suis Ariane Varlin et je vous propose de m'accompagner à la rencontre de plusieurs personnes qui vont nous aider à comprendre toutes les idées reçues qui circulent au sujet de notre silhouette, de la prise de poids et des régimes. C'est parti ! Ah, la minceur ! Combien de couvertures de magazines féminins, de livres publiés, d'émissions télé, et pourtant, pas sûr qu'on maîtrise tous les aspects de ce vaste sujet. Ensemble, nous allons tenter d'aller plus loin et de comprendre pourquoi nous ne sommes pas tous égaux sur ces sujets. Quels sont les bons réflexes à avoir ? Qu'est-ce que le métabolisme et comment optimiser son fonctionnement ? Quel est l'impact de mon alimentation sur mon poids ? Est-ce que je peux adopter un régime minceur sans contrainte et sans risquer de regagner des kilos par la suite ? Quels autres aspects de mon mode de vie ont un impact sur ma ligne ? Pour avoir des réponses à toutes ces questions, nous irons à la rencontre d'Alexia Manarino. Elle est responsable de la formation au sein des laboratoires NHCO Nutrition. Pour commencer, précisons que certaines personnes stockent plus facilement les graisses que d'autres. On entend souvent dire qu'il leur suffit de regarder avec envie un pain au chocolat pour prendre du poids, là où d'autres peuvent en manger plusieurs d'affilée sans grossir. Et oui, ce n'est pas juste. Il y a aussi une question de densité osseuse qui explique des différences de morphologie entre individus. Autant le dire, face à la prise de poids, l'égalité n'existe pas vraiment. De quoi décomplexer celles et ceux qui ont quelques kilos en trop. D'autant que plusieurs autres aspects entrent en ligne de compte. L'âge, les facteurs hormonaux, la masse musculaire, le métabolisme de base, etc. Si on ne peut pas faire grand-chose contre l'hérédité et la génétique, on peut en revanche tenter d'utiliser les super pouvoirs de notre assiette pour améliorer les choses. Plus notre alimentation est riche en nutriments, mieux notre organisme se porte. Et inversement, si notre alimentation est pauvre en nutriments, la perte de poids sera compliquée. Inutile pour autant de se priver et d'entamer des régimes susceptibles de nous nuire plus que de nous aider. Justement, j'en parlais avec une amie qui me posait une question à ce sujet. Elle m'a demandé de la rappeler, je la recontacte avec vous. Salut Sarah, ça va ?
Ouais, ça va et toi ?
Oui, ça va. Alors dis-moi, tu me disais que tu voulais faire un régime, c'est ça ?
Bah ouais, tu vois, j'ai une amie qui vient de se lancer dans le régime cétogène et elle a déjà perdu pas mal de poids. Et du coup, je me disais, enfin voilà, j'ai bien envie d'essayer. Tu connais, toi, ce régime ?
Alors, j'en ai entendu parler. C'est un régime qui consiste à réduire l'apport en glucides, hein, c'est ça ?
Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais par contre, tu peux manger des lipides. Moi, tu me connais, manger gras, tout ça, c'est plutôt mon truc. Donc, ouais, ça me tombe bien.
Je vois bien. Si le fait de réduire les glucides, ça me paraît une bonne initiative, t'es quand même au courant que c'est pas forcément adapté à tout le monde. Tu vois, ça reste un régime qui est quand même restrictif.
Ouais, je sais, mais je suis quand même tentée d'essayer. Ça me ressemble, je trouve. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Alors écoute, moi, clairement, je suis pas une experte, donc c'est difficile d'avoir une position claire. Mais je suis pas convaincue par le principe des régimes en général, tu vois.
Ah bon, pourquoi ?
Parce que l'idée, c'est plutôt de manger tout, de manger sans se priver. Et de manière générale, j'ai le sentiment que les régimes, c'est beaucoup de privation. Il y a un risque que le corps fasse de la résistance à l'amaigrissement avec un système de yo-yo. Tu as peut-être entendu parler de ce terme-là. Et alors, c'est vrai, tu vas perdre des kilos dans un premier temps, mais il y a quand même une probabilité importante d'en reprendre ensuite. Et c'est pour ça que tous ces régimes restrictifs, à mon avis, c'est pas viable sur le long terme.
Ouais, mais du coup, j'ai entendu parler de produits qui peuvent relancer ton métabolisme, tout ça. Peut-être intéressant, non ?
Oui, tu as raison, parce qu'il y a effectivement un risque de dérégler le métabolisme. Et effectivement, il y a des produits qui permettent de relancer la machine quand elle marche plus. Mais le mieux, c'est peut-être de pas la dérégler, non ? Tu crois pas ?
Ouais, donc en gros, il faudrait tout simplement que je mange beaucoup moins.
Réduire les portions, pourquoi pas ? Mais l'idée, tu vois, je pense que c'est pas de s'affamer non plus. Parce qu'il y a un risque que tu sois frustré, que du coup, t'arrêtes et que là aussi, tu risques de reprendre du poids.
Ah, mais tu me connais, moi, j'ai toujours faim.
Oui, enfin, il y a moyen d'arriver à satiété, même avec des légumes, figure-toi. Moi, mon avis, c'est que tu devrais consulter un professionnel de santé, un diététicien ou un nutritionniste, qui pourra te parler finalement des aliments les plus satiétogènes. Alors, le terme peut paraître un peu curieux, mais c'est comme ça que ça s'appelle. C'est des aliments qui finalement te donnent le sentiment de ne plus avoir faim. Et puis surtout, je pense qu'un professionnel de santé, bien, il pourra t'accompagner dans un programme minceur qui soit adapté à tes besoins.
Ouais, c'est vrai que ça m'était pas du tout venu à l'esprit de le voir comme ça, en fait.
Bon, bah écoute, bon courage, pardonne-moi, je dois filer, on se reparle très
ouais,
vite.
Ouais, y a pas de soucis, merci.
Salut ça. Bye. Si j'ai autant insisté auprès de mon amie Sarah pour qu'elle soit suivie par un professionnel, c'est parce que je suis convaincue que cela augmente les chances de réussite sur le long terme. Parce que la minceur, plus que n'importe quel autre sujet, suppose une approche personnalisée. Pour une raison simple, c'est que chaque personne fonctionne différemment, avec un rapport très particulier à la satiété, à la nourriture, mais aussi à l'image qu'on a de soi. Vous l'aurez remarqué, on ne prend pas tous du poids aux mêmes endroits, nos réflexes de grignotage ne sont pas les mêmes, les raisons de ce grignotage non plus. Homme ou femme, certaines personnes vont manger parce qu'elles sont stressées, d'autres parce qu'elles sont déprimées. Il n'y a pas de vérité absolue, mais plutôt une vérité au cas par cas, en fonction de l'âge, des besoins, etc. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre questionnaire minceur dans le lien qui figure dans la description de ce podcast. Ce qui m'a frappée dans l'échange que j'ai eu avec mon amie Sarah, c'est le nombre d'idées reçues qu'elle avait, et elle n'est pas la seule. Elle me disait par exemple que pour perdre du poids, il faudrait manger moins. Et là, elle se trompe, parce que c'est plus le choix des aliments que les quantités qui comptent. Par exemple, un grand saladier de crudité sera moins calorique que 100 grammes d'entrecôte, et ça demandera aussi plus de temps et d'efforts de mastication. Deuxième idée reçue, ce n'est pas parce qu'on a pris 3 kilos pendant l'hiver qu'on a un problème avec l'alimentation. Par ailleurs, avoir quelques kilos en trop n'est pas forcément le signe d'une mauvaise santé. Toutefois, au-delà d'une certaine limite, il faut prendre les choses en main. Nous en parlerons tout à l'heure avec Alexia. Troisième idée reçue, beaucoup de personnes pensent que pour perdre de la graisse, il faut arrêter le gras. Mais rappelons que le sucre se transforme en graisse dans l'organisme. Autrement dit, quand on veut faire un régime, éliminer le gras alors qu'on mange du sucre, cela n'a pas de sens. Rappelons qu'il y a des bons gras. D'ailleurs, certaines matières grasses sont indispensables au fonctionnement de l'organisme. Il ne faut donc pas les bannir de son assiette, mais apprendre à bien les choisir. Graisses végétales, comme les huiles de colza ou d'olive, les oméga-3 que l'on trouve dans les poissons gras, par exemple. Quatrième idée reçue. Une bonne alimentation, ce serait de ne plus manger de pizza, de gâteaux, de burgers. Alors là, c'est vrai et faux. Dans l'absolu, il ne faut pas manger que cela, mais si ça reste occasionnel, pourquoi pas? A fortiori, si on a une activité physique en parallèle. En parlant de ça, je vais aller courir un peu, j'ai rendez-vous avec mon amie Sandra, et c'est beaucoup plus stimulant quand on fait du sport à deux.
Oh, Sandra, j'en peux plus, là. Oh, ça fait, attends, je regarde mon nom, ça fait une demi-heure qu'on court. On arrête?
Ouais, ça me va, parfait.
Ça va, là, on se pose ici?
Ouais, pas mal.
On se pose.
Je sais pas quoi faire à manger pour ce soir, je sais pas du tout quoi préparer. Quoi acheter pour les enfants? Je crois que je vais acheter un plat préparé, c'est plus simple.
Pas sûr que ce soit une bonne idée. Attends, je reprends mon souffle. En fait, c'est beaucoup plus facile de savoir ce que tu manges quand tu concoctes toi-même tes repas, tu trouves pas?
Oh, je suis d'accord, mais c'est pas évident. Quand on manque de temps?
Ouais, mais tu vois, c'est aussi une question d'habitude alimentaire, finalement. C'est un coup de main à prendre.
Ouais, toi, tu vois déjà les légumes, mais tu sais, mes enfants, ils aiment pas trop les légumes, c'est pas la grande histoire d'amour, tu vois.
Non, mais je te rassure, hein, les miens non plus. Mais il y a moyen de se faire plaisir autrement qu'avec des plats tout faits. Et puisque tu me parles des légumes, on peut faire plaisir avec des légumes. Moi, j'ai trouvé un truc super, c'est que les légumes, je les mélange avec du riz complet, des pâtes complètes. Je la joue un peu sioux, tu vois, et ça passe très bien.
Ouais, bon, ok, pourquoi pas, je vais essayer. Qu'est-ce que tu proposes d'autre?
Alors, il y a un truc, tu prends des bananes, des kiwis, des oranges, des poires, ce que tu veux, tu les mets dans l'extracteur, t'appuies sur le bouton, ça fait beaucoup de boucan, ils adorent. C'est pas toujours marrant à nettoyer derrière, mais au moins c'est hyper simple, puis tu sais ce qu'il y a dans ton verre ou dans ton assiette, tu vois.
Ah ouais, c'est une bonne idée ça, je vais essayer.
Allez, moi je suis hyper en retard, là, faut que j'y aille. Je rencontre une experte sur ce sujet d'ailleurs tout à l'heure, je t'appelle après si tu veux.
Ok, ça roule, allez, bisous, bye.
Bye bye.
Alors comment manger à la fois sainement et se faire plaisir? Je vous propose de rencontrer à présent Alexia Manarino pour avoir des éléments de réponse. Bonjour Alexia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la formation chez NHCO Nutrition et vous avez vous-même un master nutrition humaine et santé publique. Première question Alexia, à partir de quel moment est-on en surpoids?
À cette question, en fait, je vous dirais, mais qu'est-ce que le surpoids? Puisque ça va être très différent d'une personne à une autre, dans le sens qu'on peut avoir aussi quelques kilos de trop et être en parfaite santé et se sentir très bien dans son corps. Finalement, le surpoids, si vraiment on s'en tient aux indicateurs de santé, on va être guidé par rapport à l'IMC. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, qui quand on a cet indice de masse corporelle qui est un rapport de poids sur taille qui est au-dessus de 25, on sera dans la catégorie effectivement du surpoids. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement avec une balance et avec un mètre, mais évidemment, on peut le faire avec les professionnels de santé. Ce sera beaucoup plus fiable. Et plus que l'IMC, ce que l'on mesure de plus en plus, c'est l'ICO.
Alors c'est quoi l'ICO?
L'ICO, en fait, c'est l'indice central d'obésité et cet indicateur, il tient compte en fait du tour de taille, ce qui va être beaucoup plus intéressant puisque ça va être aussi un marqueur par rapport à la graisse abdominale, la graisse viscérale qu'on peut développer autour de nos organes, qui est plutôt de mauvais signe par rapport à tous les risques cardio-métaboliques.
Et alors là aussi, cet ICO, est-ce qu'on peut le calculer tout seul chez soi ou est-ce qu'il est préférable de se faire accompagner?
Oui, tout à fait, mais il est beaucoup plus simple vraiment d'être accompagné par un professionnel de santé, à la fois pour le calcul de ces indicateurs, mais à la fois aussi pour parler de cette démarche par rapport au poids.
Pour faire baisser son ICO ou son IMC, on dit qu'il est important d'avoir une activité physique régulière, mais ce n'est pas très clair. Régulière, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que si je vais marcher 40 minutes par jour, par exemple, c'est considéré comme une activité régulière?
Oui, tout à fait. 40 minutes par jour, c'est déjà une activité physique régulière qui va être très intéressante. En fait, il faut différencier l'activité physique de la pratique sportive. C'est ça qui compte. Et finalement, dans l'absolu, il faut aussi absolument diminuer son temps de sédentarité. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement tout le temps que vous allez passer, par exemple, assis derrière un bureau ou assis devant la télé. Voilà, avoir une activité très immobile. Dès le moment où vous avez un temps de sédentarité qui est de 7 heures entre le lever et le coucher, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et là, c'est vrai qu'il faudra essayer justement d'augmenter son activité physique, sans forcément parler de se mettre à pratiquer un sport.
On parle souvent de l'intérêt de rééquilibrer son assiette. Alors pour beaucoup de personnes, ce concept de rééquilibrer, ça peut sembler un peu abstrait. Concrètement, comment est-ce que notre assiette peut nous aider à garder la ligne ?
Évidemment, en fait, l'assiette, c'est le premier élément qui va nous aider à garder la ligne, notamment si on est sur une alimentation variée, équilibrée, diversifiée, tout en se faisant plaisir. Ça, c'est vraiment la base. Comment elle va nous aider à garder la ligne? C'est la balance énergétique. C'est ce principe que tout ce que vous allez manger, donc tout ce qui va rentrer dans votre corps, soit il va être utilisé par votre corps, donc brûlé, ou soit il va être stocké. Ça va être vraiment une sorte de balance par rapport à l'énergie que vous allez développer sur la journée. Je reprends un exemple par rapport à tout ce que je vais manger aujourd'hui. Est-ce que mon activité ou ma sédentarité va faire que mon corps va le brûler ou va le stocker? À nous, après, d'avoir un bon équilibre.
Beaucoup de personnes ont envie de faire des régimes. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce qu'il y a le fameux risque d'effet yo-yo, autrement dit de reprendre des kilos par la suite?
Alors oui, tout à fait, mais ça va être complètement dépendant de quel type de régime on va parler. Plus le régime il est strict, il est drastique, à la limite de on s'affame, on fait une monodiète, plus il y a un risque d'effet yo-yo parce que c'est trop éloigné de notre alimentation quotidienne et de l'alimentation, comment elle va revenir après cette période de régime. Donc plus qu'un régime, ce qu'il faut conseiller, c'est plutôt le rééquilibrage alimentaire, repenser son assiette pour que ce soit quelque chose qui soit durable dans le temps.
Quel est finalement l'impact de la masse musculaire dans le corps sur le poids? Est-ce qu'il est vrai que plus on a de muscles finalement, plus on va brûler de calories? Et si oui, pourquoi?
Oui, c'est vrai. Plus on a de muscles, plus on va brûler de calories. Mais cette masse musculaire, on sait qu'elle va être dépendante du sexe parce que oui, les hommes vont être plus musclés que les femmes. Encore que ça va dépendre après de la pratique sportive, mais évidemment, physiologiquement, les hommes sont plus musclés que les femmes. Ça va dépendre aussi, comme je disais, de la sédentarité, de l'activité physique. Ça va dépendre aussi de l'âge. Mais là aussi, on en revient à la sédentarité parce qu'on peut très bien avoir des personnes âgées qui pratiquent beaucoup de sport et donc qui sont peut-être plus musclées que des personnes qui sont plus jeunes. En fait, les muscles, il faut se dire que ce sont des cellules. On les voit comme des fibres et donc derrière ces fibres, vous avez des cellules. Dans ces cellules, vous avez des petits organiques qui sont en fait les mitochondries. Les mitochondries, ce sont des petites cheminées. C'est-à-dire que c'est elles qui vont brûler tous les nutriments et fabriquer de l'énergie. Donc forcément, plus vous avez de muscles, plus vous avez de cellules. À l'intérieur de ces cellules, vous avez de nombreuses mitochondries, notamment dans les muscles. Et donc ça veut dire que ces mitochondries, elles vont pouvoir brûler énormément vos nutriments et donc brûler énormément les calories et vous aider à perdre du poids.
On peut imaginer que des personnes, même quand elles font un sport ou qu'elles ont une activité physique, stockent davantage que d'autres. Est-ce qu'on est égaux face au stockage ou est-ce qu'il y a des personnes qui stockent davantage que d'autres?
Non, on n'est pas égaux et oui, il y a des personnes qui stockent davantage que d'autres. Ça peut être lié à des problèmes de métabolisme, c'est-à-dire le fonctionnement de l'organisme. Il y a vraiment des organismes qui vont fonctionner peut-être plus lentement que d'autres. Il faut toujours chercher les causes qu'il peut y avoir derrière, notamment les causes hormonales. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose au niveau de la thyroïde? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose au niveau des ovaires? Il y a pas mal de pathologies à l'heure actuelle qui vont entraîner en fait un ralentissement du métabolisme et donc un blocage dans la perte de poids.
On entend souvent parler du sujet des sucres lents et des sucres rapides. C'est quoi la différence et est-ce que tous les sucres se valent?
En fait, sucre lent et sucre rapide, on a tendance à croire, mais donc ça c'est historiquement, que les sucres rapides, tout de suite, ils vont nous apporter du sucre parce que ce sont de toutes petites molécules qui vont être très vite digérées et on aura ce sucre disponible. Donc ça va être tout ce qui est bonbons, gâteaux. Et les sucres lents, donc là ça va être plus tout ce qui est les pâtes, les pommes de terre, eux, ils vont mettre plus de temps à être digérés et donc ils vont être plus lents pour nous apporter ce sucre. Et bah tout ça, c'est plutôt désuet. Dans le sens que maintenant, ce qui compte par rapport à ces sucres, c'est de regarder l'index glycémique. Qu'est-ce que l'index glycémique ? C'est le pic de glucose que vous allez avoir dans le sang, c'est-à-dire le pic de glycémie. Donc la glycémie, c'est quelque chose que l'on va mesurer lors des analyses qu'on va faire en laboratoire, quand ils veulent voir votre taux de sucre dans le sang. Plus cet index de glycémie qu'il est bas, plus ça va être intéressant. Plus l'index glycémique il est haut, plus vous êtes au contraire sur, on va dire, ce qu'on appelait avant un sucre rapide.
Si je résume, si je viens de manger des bonbons, l'index glycémique va être haut dans les minutes qui suivent le fait d'avoir mangé ce bonbon. En revanche, si j'ai mangé des pâtes, cet index va être élevé 2, 3, voire 4 heures plus tard, c'est ça l'idée ?
Pas complètement. En fait, c'est vraiment pour chaque aliment sucré, eh ben, on va savoir catégorier est-ce qu'il a un index glycémique qui est bas ou est-ce qu'il a un index glycémique qui est haut, sachant qu'il faudra toujours favoriser plutôt les index glycémiques qui sont bas. Et pour les pâtes, par exemple, il faut savoir que les pâtes al dente, donc avec une légère sous-cuisson, vont avoir un index glycémique plus bas, donc plus intéressant pour notre santé, que des pâtes surcuites qui, au contraire, auront un index glycémique plus fort. Et donc là, on se dit, pourtant, c'est le même aliment.
Oui, c'est complètement fou. Alors, est-ce qu'il y a d'autres aliments, à part les pâtes, qui ont un index glycémique bas? Puisque si j'ai bien compris, c'est ça qui est bénéfique à notre organisme.
Oui, tout à fait. Il y en a plein d'autres qui ont un index glycémique bas. Mais en fait, finalement, c'est toujours toutes les transformations qu'il va y avoir qui vont pouvoir faire évoluer l'index glycémique d'un aliment. Je vous donne un autre exemple. Les fruits vont avoir très souvent un index glycémique plutôt bas. Et dès le moment où vous allez leur faire subir une transformation, eh ben, l'index glycémique va montrer, c'est-à-dire que la réponse de votre organisme par rapport au sucre va être beaucoup plus forte et va être beaucoup moins intéressante sur un plan santé.
Quand vous parlez d'une transformation, c'est par exemple une banane qui arrive à maturité, une pomme qui est cuite plutôt que d'avoir été mangée crue.
Exactement. La compote de pomme ne va pas du tout avoir le même index glycémique que la pomme qui va être croquée comme ça, puisque la pomme est en forme plein de fibres, qui va permettre en fait de ralentir l'arrivée du sucre dans votre organisme et leur utilisation par les cellules. Alors que la compote, eh ben, tout est déjà en quelque sorte pré-mâché par le phénomène de cuisson et par le fait qu'on ait mixé.
Et donc moins intéressant pour l'organisme.
Tout à fait. Le sucre va être libéré du coup beaucoup plus rapidement. Donc il faut vraiment favoriser plutôt des aliments à index glycémique bas. Mais il faut aussi en fait se faire plaisir. Quand on a envie de bonbons, on mange ces bonbons et on le fait avec plaisir. Quand on a envie de gâteaux, on le fait avec plaisir. C'est très important de ne pas perdre non plus cette notion-là.
L'intérêt d'avoir un index glycémique bas, l'idée c'est d'avoir de l'énergie plus longtemps, d'avoir moins faim, c'est ça l'objectif ?
C'est à la fois un côté satiétogène, donc tout de suite ça va nous apporter un peu plus de satiété et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Mais c'est à la fois aussi un côté énergétique pour le corps qui lui aussi va permettre d'être libéré dans le temps.
Puisqu'on parle des sucres, il y a des personnes qui, plus encore que d'autres, ont des envies de sucrer. Des envies évidemment qu'il faut réguler pour contrôler son poids, parce que ces personnes peuvent avoir tendance à manger trop. Est-ce qu'il existe des aliments qui donnent la sensation de satiété, ces aliments qu'on appelle satiétogènes ?
Bien sûr qu'il y aura des aliments qui peuvent nous apporter davantage la satiété, mais en fait, là-dedans, quand on se pose cette question, c'est est-ce que déjà on mange à notre faim et en pleine conscience ? Est-ce que vraiment on regarde l'assiette et on va prendre plaisir et on va conscientiser finalement tout ce que l'on est en train de manger et de mâcher ? Donc c'est ça qu'il faut faire au quotidien. Et puis, on mange en pleine conscience, on en est sûr. Et pourtant, on a cette envie de sucre. Pourquoi on a cette envie de sucre ? Ben, il y a deux raisons. C'est soit on n'a pas mangé depuis longtemps, et donc là, le corps va réclamer. Soit on a mangé, mais donc là, c'est pas une faim physiologique. Là, c'est vraiment une envie, une pulsion. Et c'est pour ça que vous me posez la question, en fait, des aliments satiétogènes. C'est parce qu'on se dit, ben, si je mange plus de ces aliments satiétogènes, je vais calmer ces types de pulsions. Pas forcément, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a beaucoup d'aliments, notamment les aliments sucrés, qui vont nous permettre dans notre corps de synthétiser la fameuse sérotonine, une hormone du bonheur, et une hormone en fait qui appelle à ce qu'on la recherche davantage, et on la recherche toujours. C'est pour ça qu'on a toujours tendance à en revenir vers ces aliments sucrés, ces aliments un peu doudous, en quelque sorte. Donc oui, on peut aller rechercher à favoriser des aliments qui vont nous permettre d'induire cette sérotonine, le côté satiétogène. Ou alors, on peut aussi travailler avec des acides aminés précurseurs de sérotonine, c'est-à-dire à l'origine de la fabrication de sérotonine, ce qui est tout à fait faisable aussi.
Il y a un mot qu'on entend souvent quand on parle de minceur, c'est le mot drainage. Alors, c'est quoi le drainage et qu'est-ce qu'on peut manger pour le favoriser ?
Le drainage, c'est favoriser l'évacuation en fait de liquide. Le but, c'est vraiment en fait d'éliminer l'éventuelle rétention d'eau qu'il peut y avoir, de stimuler ce qu'on appelle la diurèse. C'est éliminer l'eau. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs, par exemple, de plantes diurétiques ou d'aliments diurétiques. Les bien connus, ça va être évidemment le thé vert, le café sont des diurétiques. Et après, vous pouvez avoir le fenouil et bien d'autres. Ce qui peut être très intéressant, c'est d'associer à des plantes diurétiques des éléments pour la circulation. Puisque c'est vraiment les éléments pour la circulation qui vont faire que ça va mieux circuler dans votre organisme. Et donc, vous allez pouvoir mieux évacuer cette rétention d'eau.
Il y a un autre mot, au-delà du mot drainage, qu'on entend souvent sur le sujet de la minceur, c'est le mot détox. Alors, c'est quoi l'intérêt d'une détox avant ou après un programme minceur ?
Alors, la détox par rapport au drainage, il va y avoir une différence dans le sens que la détox, elle est vraiment là pour aller nettoyer l'organisme de toutes les toxines. Donc, les toxines, c'est tout ce que notre corps fabrique comme déchets et va aussi nettoyer toutes les toxiques. Ça, c'est tout ce qui nous arrive par l'extérieur. Par exemple, l'alimentation du fait des pesticides, des métaux lourds, mais ça peut être aussi la prise de médicaments, ça peut être tous les polluants. Heureusement que dans notre corps, on a notamment le foie, mais qui n'est pas tout seul et qui va nous aider à assurer cette détox. Pourquoi elle est très importante avant un programme minceur ? Parce qu'en fait, avant de mincir, quand on est dans cette idée de perte de poids, il faut justement travailler sur un terrain propre, j'ai envie de dire, pour que la perte de poids elle soit plus optimale. L'organisme et donc le métabolisme, c'est-à-dire tout ce qui est en marche et en route pour vous aider dans cette perte de poids, c'est important, encore une fois, que toutes ces réactions métaboliques fonctionnent. D'où l'intérêt, notamment le foie, qui soit bien nettoyé pour que ça marche. Et après un régime, pourquoi c'est tout autant important ? Parce qu'en fait, durant un régime, le but étant de perdre du gras, tout de même. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de toxiques, de beaucoup de polluants, notamment les métaux lourds, qui sont lipophiles, c'est-à-dire qu'ils aiment les graisses. Et ils ont tendance à se stocker, en fait, et à rester dans nos adipocytes, nos cellules graisseuses. Et donc, quand on perd du poids, on se retrouve à avoir un relargage, en fait, de tous ces polluants dans notre circulation sanguine et dans notre corps, parce que notre perte de poids, ils étaient, en fait, emprisonnés dans nos adipocytes. Et donc, ça va être très important d'aider le foie, de le soutenir dans ce nettoyage pour les éliminer. Parce que, heureusement, notre corps, il est capable. C'est le super pouvoir du foie, notamment.
On imagine le travail gigantesque que ça représente pour cet organe. Est-ce qu'il y a moyen de l'aider ?
Oui, complètement. Mais encore une fois, ça s'inscrit vraiment dans une démarche au niveau de l'assiette, dans une démarche au niveau de l'activité physique. Et bien sûr, pourquoi pas aussi les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires vont pouvoir vraiment soutenir l'activité hépatique et donc le foie dans cette question de nettoyage. Mais pas que le foie, ça peut être aussi la satiété, la rétention d'eau, la circulation, comme on en a déjà parlé.
D'accord, pour aider cette merveilleuse machine humaine qu'est le corps. Merci beaucoup Alexia Manarino d'être venue nous apporter tous ces éclairages.
Merci beaucoup.
C'est ainsi que s'achèvent Les Pouvoirs de votre assiette, le podcast proposé par NHCO Nutrition, laboratoire français, expert en micronutrition spécialisé dans les compléments alimentaires à base d'acides aminés. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode afin de continuer d'explorer les pouvoirs de notre assiette. On abordera le lien entre l'alimentation et le mental. En attendant, prenez soin de votre corps, mais aussi de vos papilles.